Ce segment course automobile avec Jacques Villeneuve vous est présenté par Ultramar et ses 800 arrêts au puits à travers le pays.
Il y avait le Grand Prix de Formule 1 ce matin. Ça se passait du côté de Singapour, un circuit un peu particulier qui ressemble un peu beaucoup à Monaco, mais en plus gros. On en parle avec notre collaborateur Jacques Villeneuve qu'on retrouve sur place. Bonjour Jacques, ou bonne nuit.
Bonjour. Oui, bonne nuit, bonjour, bon matin. C'est un mélange.
Oui, hein? Jacques, bon, je mentionnais, c'est un peu un gros Monaco. Est-ce que c'est vraiment différent de ce qu'on, de ce que les pilotes vivent à Monaco, le circuit de Singapour?
Oui, déjà de rouler la nuit, en plus, il fait une humidité incroyable. Et Monaco, c'est vraiment le jet set. Hein. C'est la folie dans les rues, c'est un peu différent. Ici, c'est un peu plus calme. Mais le tracé est vraiment intéressant. Il est long, il est difficile, compliqué pour les pilotes.
Un jeu de patience.
Oui, surtout comme on a vu aujourd'hui.
Difficiles. Est-ce que ça change l'approche? Est-ce que ça change la gestion de la course, l'attitude que les pilotes doivent avoir au départ quand la course est longue sur un circuit comme celui-là?
Oui, parce que les pilotes savent que ça va être difficile physiquement et mentalement. Et ça, ils le savent avant la course, parce que si on regarde Monaco, tous les Grands Prix de F1, ils font 300 km de long, sauf Monaco, qui est à 260. C'est à l'époque, parce que quand les voitures allaient moins vite, donc dans les années 60, la course était trop longue. Mais ici, ils l'ont gardé de 300 km. Et c'est pour ça que cette année, avec les safety cars, on n'a même pas fait la totalité du Grand Prix. La course s'arrête au bout de 2 heures, de toute façon.
Ouais. Est-ce que ça devient plus important ou moins important de partir à l'avance? À l'avant, je veux dire, de la grille?
C'est toujours important, mais en même temps, si on voit le Grand Prix d'aujourd'hui, qui gagne la course, Lewis Hamilton, il partait quoi, 5e?
Ouais.
En fait, c'est important d'être premier après le départ, principalement.
Ouais. On parlait de la visibilité, ça a été un problème aujourd'hui lors de la course au départ, surtout la première heure, parce qu'il pleuvait. Je t'entendais vendredi avec Mario Langlois dire que, bon, les lumières, c'est pas un problème, mais avec la pluie, là, ça devient un problème avec les reflets.
Oui, avec la pluie et avec les reflets, c'est un énorme problème. Heureusement, il y avait pendant 3 ou 4 tours de l'eau, mais il pleuvait plus, donc ça s'est vite asséché. Mais j'ai l'impression que la visibilité était moins bonne que lorsque les courses sont la journée sous la pluie, oui.
Est-ce que c'était un peu prévisible de ce qu'on a vu au départ, dans le premier virage, l'accident?
Non, prévisible, non, mais bon, on a eu le même genre d'accrochage l'année passée. Là, c'est, ben, Vettel, il a mal joué. Il a pris un risque qui était complètement inutile, parce que quand on rate son départ, il faut aller tout droit, les autres, ils arrivent derrière.
Ouais.
Et impossible pour lui de savoir s'il y avait un ou deux pilotes à sa gauche, donc il est à 100% coupable et il paye le prix complet de son action en perdant énormément de points au championnat, en donnant... Ouais. Non seulement le gâteau d'anniversaire, le Noël, mais aussi il donne la cerise sur le gâteau à Lewis Hamilton aujourd'hui.
Ouais, rappelons qu'au départ, juste à l'approche du premier virage, Verstappen s'est fait prendre en sandwich, si on veut, entre Vettel et Raikkonen. Les trois pilotes ont été sortis de la course. Ça a été, comme tu dis, un cadeau du ciel pour Hamilton, qui n'avait pas connu des bonnes qualifs hier, parti 5e.
Non, il n'était pas vite. La voiture n'était pas vite, mais aujourd'hui, il faisait moins chaud.
Okay.
Et le problème de la Mercedes, elle surchauffe énormément ses gommes arrière. Et aujourd'hui, avec moins de température, il ne faisait que 28 degrés. C'était quasiment l'hiver ici, par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Oui, d'habitude, on est en sueur, on dégouline. Là, cette année, c'est même agréable. Et donc, ça a permis à Mercedes d'être vite en course aussi.
OK. Parce que j'écoutais les collègues d'RDS raconter que c'était pas un circuit qui était favorable pour les Mercedes, ni pour les Williams, d'ailleurs. C'est ce qu'on a vu en qualif hier, mais pas aujourd'hui.
Clairement. La Williams en course n'était pas vite aujourd'hui, comme en qualif, mais en tout cas, Lance a bien tiré profit des abandons, ça s'est bien passé pour lui. Par contre, Mercedes, oui, a été rapide. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils étaient vraiment loin tout au long du week-end, même en préparation de course.
Parce que 18e au départ, bon, on disait que c'était pas vraiment une surprise pour Williams lors des qualifs. Là.
Non, c'était pas une surprise. Lance c'était d'ailleurs son coéquipier, mais les deux étaient quoi, 17 et 18e, vraiment pas un bon week-end. Et en plus, l'équipe ensuite, je sais pas ce qu'ils ont fait avec Massa, et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de lui détruire sa course. Ils l'ont laissé en piste avec des pneus pluie, alors que tout le monde était en pneus intermédiaires. Il perdait 3-4 secondes par tour, et même comme ça, il le laissait en piste. Donc vraiment étrange comme situation.
Vous avez peut-être pas un bon radar météo.
Ben, ils l'avaient avec Lance. Lance était sur les pneus intermédiaires. Ça a bien fonctionné.
Oui. Ouais.
Et après, ils ont mis Felipe quelques tours en pneus intermédiaires. Et après, en pneus slick. Donc, il a payé deux fois le prix. Mm-hmm. Et là, ils lui ont demandé si c'était la bonne gomme. Et dès qu'il a dit oui, c'est la bonne gomme, on en a profité pour faire arrêter Lance. Donc, il a été très utile à l'équipe. Par contre, ça a endommagé sa course.
Ouais. Est-ce que dans les circonstances, avec ce dont tu viens de parler, la gestion des pneus, les incidents, les voitures de sécurité qu'on a vues trois fois, est-ce que c'est plus difficile de donner une note pour le travail de Lance aujourd'hui?
Non, c'est correct. Il a plus sa place. Il a juste fait un petit blocage de roue, rien d'extravagant. Donc, il avait un bon rythme. Non, il s'est bien débrouillé sous la pluie au début, comme on avait vu à Monza. Donc, une bonne note. C'est pas le niveau de Monza, mais en partant 18e, c'est clairement 5 pilotes n'étaient plus là. Mm-hmm. Parce que même Hülkenberg a eu un problème.
Ouais.
Mais il s'en est tiré correctement.
Et il a terminé devant Massa.
Oui. Bon, là, c'est aussi grâce à l'équipe qui l'a complètement... mais au moins, c'est beau de voir que la préparation, parce que Lance a loué le circuit de Suzuka. Il prépare, hein, il roule beaucoup. Il était à Suzuka pendant une semaine, la semaine dernière. Donc, il fait tellement de préparation qu'il vaut mieux, que ça paye. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'ils essayent de garder ça secret, mais en Formule 1, rien ne reste secret.
Non. Dis-moi, est-ce que le championnat vient de se jouer en grande partie aujourd'hui, non? Parce qu'il reste seulement 6 courses.
Non, parce qu'il reste. C'est beaucoup, 6 courses en Formule 1. C'est quand même beaucoup. 6 courses, c'est 150 points. Ouais. Et il a 28 points d'avance. Donc, non, tout est encore à faire.
OK.
C'est une grosse carte parce que c'était un Grand Prix pour Ferrari où ils devaient vraiment ramasser les points. Mm-hmm. Mais encore, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir un mauvais premier tour pour Lewis Hamilton dans un Grand Prix à venir.
C'est vrai. Et il reste des circuits qui sont favorables à Ferrari aussi, j'imagine?
Oui, mais là, ça va être assez équitable jusqu'à la fin de la saison.
OK. Alors, ça va ajouter à l'intérêt qu'on va porter aux 6 derniers Grands Prix. Dans l'actualité...
Et oui, et puis Red Bull va être au milieu de la lutte jusqu'à la fin de la saison aussi. Ça va être intéressant.
Oui. Dans l'actualité de la Formule 1, Jacques, au cours du week-end, on apprend que Robert Kubica va avoir des essais avec Williams au cours des prochaines semaines. Tu vois ça comment? C'est pour...
Je comprends pas. S'il avait vraiment été bon, Renault l'aurait pris.
Ouais.
Je comprends pas. Quel est le but?
Est-ce que ça annonce la fin pour Massa?
Non. Il doit encore faire des essais. Écoute, il a un bras. Hein. Il a vraiment un bras. Donc, il ne peut pas être au même niveau qu'il était à son meilleur en Formule 1. Mm-hmm. Et à la fin, il avait du mal contre Petrov. Donc, je ne sais pas quelle est la raison. Est-ce que c'est pour avoir un pilote moins vite que Massa dans l'écurie pour aider Lance à s'améliorer? Je ne sais pas quel est le but de faire ça, ou est-ce purement médiatiquement, parce que c'est sympa d'aider un pilote qui a été accidenté. Mm-hmm. Mais clairement, s'il n'avait pas eu son accident, on ne lui donnerait pas toutes ses chances aujourd'hui.
Ouais. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on apprend que Sergio Perez est confirmé avec Force India pour la prochaine saison. Esteban Ocon aussi. Donc, est-ce que ça met fin automatiquement aux rumeurs qui ont circulé dernièrement voulant que Lance se retrouve avec Force India l'an prochain?
Ah, j'imagine. J'imagine, mais bon, les contrats, on a vu déjà des contrats se briser.
Ouais.
Non, c'est un peu tard là pour les rumeurs. On est rendu quasiment en mi-septembre. Mm-hmm. Ça me semblerait un peu tard là pour faire un move de la sorte.
OK. Tu vas m'expliquer quelque chose parce que celle-là, je la comprends mal. McLaren délaisse le moteur Honda l'an prochain pour prendre Renault. Mais Honda s'en va avec Toro Rosso l'an prochain et avec Red Bull en 2019. Ça leur tente plus de gagner, eux autres?
Non, je pense que c'est parce qu'ils ont envie de rouler dernier, clairement. Je comprends pas. Là, je comprends pas le move pour Toro Rosso.
Mm-hmm. Et encore moins pour Red Bull.
Parce que Red Bull, ils veulent utiliser Toro Rosso pour vérifier, parce qu'ils savent que ça va être la fin avec Renault, vu que Renault s'en va avec McLaren. Mm-hmm. Donc, ils veulent vérifier s'il y a du potentiel avec le moteur Honda. Ils ont qu'à ouvrir les yeux et regarder. C'est assez facile de comprendre le potentiel. Mm-hmm. La seule chose qui pourrait aider Honda, ça serait que quelqu'un d'autre passe le moteur et après Honda met son autocollant sur le moteur et dire que c'est un moteur Honda. Parce que le moteur de base est leurs ingénieurs, parce qu'ils refusent en plus de prendre de l'aide de l'extérieur.
Ouais,
peut-être que ça va changer, mais depuis le début, McLaren a tenté, ils ont tenté d'amener Mario Hien, qui a toujours fait des moteurs fantastiques, et ils ont refusé de travailler avec. Ils voulaient tout prendre des ingénieurs internes qui sont issus du milieu de la route. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, s'ils ne changent pas cette attitude, cette stratégie, ça ne fonctionnera pas. En plus, avec une équipe qui n'est pas de la pointure de McLaren, ça va être très, très, très compliqué. Mais en même temps, Honda s'enlève de la pression parce que avoir des résultats médiocres avec McLaren, ça fait mal. Des résultats médiocres avec Toro Rosso, il est possible de mettre la faute sur les épaules de Toro Rosso.
Oui, c'est sûr.
Par contre, Toro Rosso, ça leur fait des économies. Ils n'ont plus besoin d'acheter le moteur et en plus, on leur donne 5 millions. Donc, c'est 20 millions de plus dans les comptes. Ouais. Mais 20 millions pour rouler dernier, ça veut dire perdre des droits télé, donc perdre un autre 15 millions venant des droits télé. Donc, sur le long terme, ça te détruit une équipe. Donc, je ne comprends pas cette approche. Et en plus, ils perdent Sainz, qui est un pilote très vite. Ouais, bon, ils vont le remplacer par Gasly, qui est rapide, donc ça devrait aller.
Et McLaren, avec le Renault l'an prochain, est-ce que tu crois qu'ils vont être capables d'aller se battre à l'avant du peloton?
Ils ont châssis qu'ils ont cette année. Oui, ils seraient au niveau des Red Bull.
Ah, à ce point-là, oui.
Oui, parce qu'il leur manque 20, 30, 40 chevaux. Et parfois, ils sont vraiment très vite.
OK, alors c'est pour ça qu'Alonso est moins impatient c'est depuis la dernière course, mettons. Là. Ou même aujourd'hui.
Oui, mais c'est pour ça qu'on les a vus ce week-end rouler chez McLaren avec beaucoup d'ailerons. D'habitude, ils enlèvent de l'aileron pour essayer d'être vite en ligne droite, pour essayer d'être compétitifs. Ce week-end, ils ont mis de l'aileron, ils ont travaillé sur la voiture pour préparer l'année prochaine.
Bon, ben c'est bien. On va continuer à suivre ça parce qu'il va sûrement y avoir d'autres choses à discuter dans deux semaines lors de la prochaine course. Jacques, merci infiniment. Puis on se reparle dans deux semaines après la course en Malaisie.
Oui, merci et bonne fin de journée.
Au revoir. Jacques Villeneuve, notre collaborateur F1 du côté de Singapour, qui a couronné aujourd'hui Lewis Hamilton, qui l'a emporté devant Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas. Sainz a terminé quatrième, Perez cinquième, Palmer sixième, Van Doorn septième et Lance Stroll a pris la huitième place, lui qui était parti de la 18e position sur la grille de départ. Je rappelle qu'il y avait eu un accident spectaculaire au début de la course, dès le premier virage, qui a éliminé Raikkonen, Verstappen et Vettel un ou deux virages plus loin. On fait une courte pause, on revient tout de suite après aux amateurs de sport.
Hey, je pense qu'on est perdu.
Ben, j'ai suivi le GPS.
C'est ça que je dis, on est perdu.
Ben non, regarde, c'est notre Ultramar, juste au coin, là.
Hey, ils sont partout, eux autres.
Ultramar est fier de s'associer au segment course automobile avec Jacques Villeneuve, la meilleure façon de rester informé tout au long de la saison. Et avec plus de 800 stations à travers le pays, c'est facile de carburer avec Ultramar.
Non, mais ça conduit-tu comme des fous, par ici?